chers auditeurs, bonsoir. Nous allons voir ce soir comment la grande histoire peut se conjuguer avec l'histoire de notre petit pays d'Ikouzoran, et cela au plus haut niveau de l'État. Je vous invite donc à retrouver la cour de Louis XV, dit le bien-aimé. Les grands historiens ont retenu le règne de Louis XV comme étant celui des cabales, des intrigues de boudoir. D'autres ont relativisé cet aspect, faisant de la cour de ce monarque un lieu laissant plus de place à la vie privée et aux intrigues. Il se dit aussi, dans ces milieux savants, que Louis XV, se souciant avant tout de lui-même, aurait négligé l'héritage spirituel de son aïeul, le roi Soleil, qui était ce monarque Louis XIV qui vécut dans toute sa splendeur. Si le règne de Louis XIV fut marqué par une dépolitisation des courtisans, et ces derniers furent invités à vivre à la cour de Versailles, mais à condition de s'amadouer et d'être contrôlés. Personne, et particulièrement le roi Louis XIV, n'avait oublié la rébellion des nobles lors de la Fronde. Sous Louis XV, on assista à une certaine forme d'engagement des courtisans, c'est-à-dire à un certain relâchement. Le parti des dévots, notamment, réunissant les partisans d'une vertu plus conforme aux normes dictées par l'Église, devenait plus puissant, ou du moins faisait entendre sa voix. Le dauphin, fils de Louis XV, Louis de France, aurait mérité les compliments de ce parti des dévots, ces derniers louant sa retenue, son sérieux conforme aux préceptes de la chrétienté. Louis de France, dauphin du royaume, naquit le 4 septembre 1729 au château de Versailles. Et il est l'aîné des fils du roi Louis XV de France et de Navarre. Ce roi, lors de la naissance du dauphin, n'avait que 19 ans. Le dauphin, mort avant son père, ne fut jamais roi, mais il fut le père de 3 rois de France qui jouèrent un grand rôle dans l'histoire, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Éloigné des divertissements de la cour, le dauphin détestait les pratiques sportives et n'était pas, loin de là, un fanat de la chasse. Plutôt maladroit, et on va le voir. Il fut un des premiers rois de France à être obèse, ce qui est tout un programme. Le duc de Luynes soulignait que le dauphin avait besoin d'être débourré et dégourdi. Tout un programme. Le dauphin, Louis de France, ne souhaitait pas faire de vagues à la cour et respectait avec un grand zèle la politique de son père Louis XV. Il était effrayé par la perspective de monter un jour sur le trône. Ben, apparemment, la Providence l'a exaucé, puisqu'il est mort avant son père. En ce qui concerne les femmes, notre dauphin n'était pas un débauché et tenait avant tout à être fidèle à sa femme. Cependant, il fut toujours touché par la grâce féminine, mais semble-t-il de façon platonique et esthétique. Louis de France, dauphin, n'aimait pas la chasse et l'activité physique, ce qui contrariait beaucoup son papa, Louis XV. L'activité cinégétique étant la passion de la maison des Bourbons, mais ça tout le monde le sait. Son père, le grand Louis XV, disait de lui, donc disait de notre pauvre dauphin, il n'a aucun goût, la chasse. Les femmes, la bonne chair, ne lui sont de rien, disait le pauvre Louis XV. Le 17 août 1755, le dauphin alla chasser la perdrix à Villepreux. Alors que la chasse était terminée et qu'il s'apprêtait à monter dans son carrosse, il posa le fusil sur l'épaule de son page et déchargea son fusil. Alors que Monsieur de Chambord ORS, s'avançait vers lui, le coup de feu atteignit mortellement notre Monsieur de Chambord. La douleur du dauphin fut indescriptible, il piqua même une crise de nerfs. Il fallut le rapatrier en urgence à Versailles, et ses larmes eurent beaucoup du mal à se tarir. Le gentilhomme, qui fut mortellement blessé, donc Monsieur de la Boissière de Chambord, laissait un enfant posthume qui naîtra 6 mois après ce funeste accident. Le roi Louis XV, rentrant précipitamment de Compiègne, touché par le désarroi de son dauphin de fils, lui promit de veiller au bien-être de l'enfant à naître et de la famille de Chambord, et l'histoire nous dit qu'il tint parole. Le 31 janvier 1756, l'épouse du gentilhomme donnait naissance à Paris à Louis-Joseph Jean-Baptiste La Boétière de Chambord. Le dauphin écrivit alors à la jeune dame une lettre pour s'engager à subvenir à tous ses besoins. Et lui dit, dans cette lettre, « Vous me verrez, madame, toujours aller au-devant de tout ce que vous pourrez souhaiter, et pour vous, et pour cet enfant. Ma seule consolation étant d'adoucir la douleur que je sens, comme vous la sentez vous-même. » Le dauphin voulut être parrain de l'enfant et fit ériger par lettre patente de son père, le roi Louis XV, la terre de Chambord, située, donc cette terre de Chambord était située près de Rouen, et cette terre de Chambord fut transformée en comté de Chambord. Et même, il acquit le titre de marquis. Donc, il fit allouer à cet enfant, le roi, le dauphin, une rente perpétuelle jusqu'à la fin de la lignée du fils de la victime de l'accident de chasse. Et cette aide perdurera jusqu'à 1905, date de l'extension de la lignée des La Boétière de Chambord. Cet homme, bénéficiant d'un auguste appui royal, devint rapidement colonel du régiment d'infanterie d'Austrasie, un régiment très prestigieux, donc pas étonnant qu'il ait obtenu cette fonction. Mais revenons dans le Couserans, par la grâce de notre marquis de Chambord, Louis-Joseph Jean-Baptiste La Boétière de Chambord, qui épousa la toute jeune Alexandrine Constance Gabrielle de Polignac. La jeune Alexandrine de Polignac fut nommée vicomtesse du Couserans alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle avait hérité de droits seigneuraux du Couserans de la puissante famille de Moléon, branche de la maison de Foix. Cette famille des Moléon de Foix lui appartiendra donc en dos la vicomté du Couserans et la seigneurie de Seix, exercée en pariage avec le roi selon les usages anciens de la féodalité. Rappelez-vous que Seix était une enclave languedocienne en pays gascon, dépendant directement du roi. Ces privilèges furent accordés à la ville de Seix par Charlemagne en échange d'une fonction de surveillance de la frontière. Seix devenait donc une ville royale en pariage avec le vicomte du Couserans. Le seigneur de Seix, donc, qui est aussi le vicomte du Couserans, ayant la possession des terres et des droits en indivision avec le monarque, c'est-à-dire qu'il avait sur cette terre de Seix les mêmes droits que le roi. Et bien sûr, il obtint d'autres titres, d'autres seigneuries qu'il serait trop fastidieux d'énumérer dans le cadre de notre chronique. Cette famille des Moléon de Foix était mal vue des paysans du Couserans. Les Moléon avaient harcelé les habitants de la cour, Oust, Seix, Saint-Enac, Souex, Couflès de Salo, Oust, Rogade, communauté appartenant à cette vicomté, au sujet des droits ancestraux accordés aux fourrés. De nombreux procès furent intentés. Et les Moléon de Foix chargèrent des avocats de revenir sur l'ensemble des droits seigneuraux accordés les siècles précédents à toutes ces communautés. De nombreux procès furent intentés et toutes ces communautés donc, qui étaient placées sous la férule de la vicomté de Foix donc, se rebellèrent et ne se laissèrent pas faire. La tradition orale voulait que ses habitants se découvrent en passant devant le château de la cour. Mais il faut savoir qu'un jour, un habitant de Seix refusa justement de se découvrir et montra son illustre postérieur. Pour la petite histoire, ce château de la cour, Tantaï, fut brûlé à la première occasion en 1793. À la disparition des Moléon de Foix, la vicomté fut donc attribuée à notre enfant Alexandrine Constance Gabrielle de Polignac. Gageons que cette demoiselle, orpheline à l'âge de 15 ans, ne se sentait pas intéressée plutôt par le Couserans. Et là, on la comprend. Mais voilà que le 11 juillet 1786, alors qu'elle n'était âgée que de 18 ans, notre mademoiselle de Polignac épouse le marquis Louis-Joseph Jean-Baptiste La Boétière de Chambord, que nous connaissons bien maintenant. Le comte de Chambord devint alors le vicomte de Couserans de Chambord-Polignac. Mais il faut dire que la vicomté du Couserans était revendiquée avec force par Jean de Saint-Jean-Pointis, qui se qualifiait lui-même de vicomte du Couserans, allant jusqu'à siéger comme doyen à l'Assemblée provinciale de la Généralité d'Auch en 1787. Cajon que les appuis royaux octroyés au comte de Chambord, de façon définitive, aidèrent donc le vicomte de Couserans pour garder le titre de vicomté du Couserans. Donc disons, de vicomte du Couserans, pardon. Un homme d'affaires avisé, notre homme chargea deux hommes de loi afin d'établir la liste de ses droits et de ses propriétés dans le siège de la vicomté du Couserans. Alors, par l'entremise de notre comte de Chambord-Polignac, de nombreux procès furent intentés à une population qui n'entendait pas se laisser dominer par cet intrus protégé par le roi Louis XVI. Les mentalités ayant changé, nous étions proches de la Grande Révolution. Les habitants de Saint-Eunac, se montrant récalcitrants, le vicomte de Chambord-Polignac demanda la destruction du pigeonnier du curé, le curé de Suère, et du chevalier de Sirgan de la campagne. Mais, au terme de procès, il n'y parvint pas. Après de longues procédures, le comte de Chambord-Polignac fut débouté. Il fut débouté, bien sûr. Tout simplement. Se rendant en Couserans, il s'installa au château de Saint-Giron, situé toujours au parc du tribunal, d'où sans doute le nom de château des vicomtes. Le comte de Chambord-Polignac, vicomte du Couserans, etc., etc., voulut rétablir l'ensemble de ses prérogatives comme sénéchal de Comminges, titre qu'il contestait au marquis d'Espagne, et celle de commissaire du roi Nébouzan, détenu par le vicomte d'Hercé de Sirgan. Il entendait se faire entendre et il entendait être le plus puissant. Lorsque l'agitation révolutionnaire s'empara de nos contrées, le comte de Chambord-Polignac devint secrétaire du marquis d'Espagne lors de l'Assemblée des Trois Ordres. Le 25 mai 1789, il fut largement élu, à la fois député de la noblesse et du tiers-état aux états généraux. C'était apparemment le sauveur. Il refusa la députation de la noblesse au profit du comte Le Panetier. Alors, le comte Le Panetier, je vous le rappelle, émigra donc et constitua en Espagne un régiment qui s'intégra à l'armée du général Ricardos. Cette armée du général Ricardos participa à de nombreuses batailles contre les troupes de la République, particulièrement dans les Pyrénées catalanes, ou plutôt, on dirait de nos jours, les Pyrénées orientales. Bien sûr, le comte de Chambord-Polignac, vicomte du Couserans, ne vota pas le serment du jeu de pommes le 20 juin 1789 et prit rapidement fait et cause pour les intérêts de la noblesse. Charité bien ordonnée commence par soi-même, nous le voyons. À la suite de la nuit du 4 août, remettant en cause les privilèges de la noblesse, le comte de Chambord-Polignac déclara aux montagnards couseranais que l'abandon de certains de ses privilèges devait s'accompagner de la confirmation de ton droit. Il ne perd pas le nord. Dans le Couserans, la tension monta particulièrement à Seix, où les habitants se déclarèrent prêts à promener la tête de Chambord, vicomte du Couserans, au bout d'une pique si par aventure ils revenaient dans leur ville. Il faut dire que le comte de Chambord harcelait les habitants de Seix avec des procès au sujet des montagnes et des forêts. Pour la petite histoire, le comte de Chambord-Polignac réussit à faire voter le maintien de la rente de la pension perpétuelle qui lui avait été octroyée par le roi Louis XV, comme nous l'avons vu en début de chronique. Le comte de Chambord-Polignac, bien sûr, ne resta pas en Couserans sans doute, car il émigra et s'enrôla dans les troupes hostiles à la République en tant qu'aide de camp du comte d'Artois. Il s'engagea dans l'armée portugaise en tant que maréchal de camp et fut nommé commandeur de l'ordre portugais de Saint-Benoît d'Alvise. Ce n'est pas une mince affaire. Sa femme, vicomtesse du Couserans, mourut à Lisbonne en 1799. Cette ancienne vicomtesse du Couserans, enfant, c'était la plus jeune vicomtesse du Couserans, et donc elle est morte à l'âge de 31 ans. Pendant ce temps, les autorités révolutionnaires du district de Saint-Giron supprimèrent toutes les terres des Chambord situées dans les nouvelles municipalités d'Oust, Souex, Seix, Saint-Eunac, Rogal, Couflens-de-Salaud, La Cour, Saint-Giron. Mais le comte de Chambord garda toutes les rentes et les privilèges accordés par le 15, et cela malgré les procédures intentées contre lui par les autorités révolutionnaires.